acceptable, parce que quand on essaie de voir pour les autorités de la transition, il est question que la municipalité s'en aille. Alors, pour les groupes armés terroristes, si l'administration quitte le Mali, alors, comme s'ils seront livrés un peu aux forces de défense et de sécurité maliennes. Donc, il y a quand même une dissension en ce qui concerne ce problème-là. Parce que quand on essaie de voir les observateurs politiques, aujourd'hui, l'administration a essayé de jouer un peu en faveur des groupes armés, parce qu'il y a certains camps qui devraient faire l'objet de rétrocession aux forces de défense et de sécurité maliennes, mais les forces tchadiennes ont gêné de prendre la tangente sans que l'armée ne prenne position. Alors, d'une part, quand on essaie de voir, il y avait préalablement deux accords qui avaient été signés. Le premier accord, c'est l'accord de cesser le feu qui a été signé en 2013 suite à la débandade que l'armée malienne avait subie aux portes du Kidal et à l'intérieur même du Kidal lors de la visite du Premier ministre Moussa Mara. Alors, il était question dans cet accord de cesser le feu que toutes les parties restent campées sur leur position. Alors, partant de là, il y a eu l'accord d'Alger. Et aujourd'hui, ces deux accords sont en panne. La machine de l'accord est en panne, si on peut le dire. Elle est même grippée. Parce que depuis bientôt une année, le comité de suivi de l'accord n'a pas du tout siégé. Et pendant que la résolution 2692 de l'ONU dit que clairement que les camps doivent revenir à l'armée malienne, alors pour les groupes armés, il n'est pas question. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a une nuance évidente, parce qu'il est très difficile de faire une dichotomie, sinon de tracer une ligne de démarcation entre les forces rebelles sécessionnistes et les groupes armés djihadistes. Quand on essaie de voir, lorsque ces deux groupes perpètrent des attaques contre les positions de l'armée malienne, ou bien lors de l'attaque du bateau Tombouctou, vous allez lire dans leur communiqué, ils font toujours allégeance. Ils disent toujours que, la CEMA dit toujours que le GNIM est son partenaire. Alors, si pour la partie malienne, la CEMA est signataire de l'accord, et en même temps, les groupes djihadistes du GNIM et de l'EGS, du Daesh, ne sont pas inclus dans le processus de l'accord d'Alger, ce qui veut dire qu'ils doivent être combattus. Alors, il y a aujourd'hui une collusion, une liaison incestueuse entre les forces ayant eu de l'accord avec le gouvernement malien, l'accord d'Alger en 2015, les groupes armés et les groupes terroristes.
Je vous remercie pour ce rapport, M. Oula. Il y a M. Amadou Alpha Sissoko qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, M. Sissoko. Vous nous recevez, M. Sissoko?
Oui, je vous reçois 5 sur 5.
Vous êtes analyste et chroniqueur politique du côté du Mali. Nous parlons du retrait de la MINUSMA du Mali et les enjeux autour de ce retrait. Il y a les forces, les autorités maliennes qui parlent de trahison. Est-ce qu'on peut rappeler d'abord le calendrier de ce retrait, le calendrier qui a été conclu avec l'ONU avant le début de ces retraits?
Oui, merci de m'avoir donné la parole. Vous savez, d'abord, la demande malienne qui a précédé la résolution des Nations Unies est arrivée dans un calendrier de demande de retrait assez restreint. Parce qu'une mission de cette dimension, de cette taille, entre 9 et 11 mois, organiser son retrait, ce n'était pas une affaire simple.
Mais est-ce la raison pour laquelle l'ONU a décidé de précipiter son départ?
Non, je ne suis pas au fin fond des critères qui ont amené l'ONU à... L'ONU n'a pas précipité, en fait. C'est en fait la partie malienne qui a demandé et qui a donné aussi le délai dans lequel il entendait que ce retrait se fasse. Donc, je pense que le délai était même plus resserré, la proposition était même plus resserrée que ce qui a été obtenu au niveau de la résolution.
Mais comment comprendre alors la réaction des autorités de Bamako, M. Oula?
Bon, la réaction des autorités de Bamako, c'est que le délai imparti, imputé à l'AMUNISMA, qui est le 31 décembre, est non négociable. Il n'y a pas de question de prolonger le départ de l'AMUNISMA, pas du tout. Après le 31 décembre, c'est pas possible. Alors maintenant, quand on essaie de voir, il y a les plus grands camps qui étaient à l'époque occupés par l'AMUNISMA sont en train d'être cédés de manière progressive. Nous avons eu à Ouagadougou, l'AMUNISMA a cédé à l'armée malienne. À Ber, il y a eu quand même des affrontements. À Goundam, il n'y a pas eu d'affrontement, mais le camp est cédé à l'armée malienne, à Ménata aussi. Et c'est dans ces délais, c'est surtout à Tessalit, à Aguelhok, qu'il y a eu des incompréhensions quand on essaie d'analyser. Mais à Ansongo et puis à Luanda, il n'y a pas eu d'attaque, il n'y a pas eu d'anicroche en ce qui concerne la rétrocession de ce camp. Maintenant, le problème c'est quoi? Quand on essaie d'analyser un peu de manière approfondie, les Tchadiens disent que ils étaient à Aguelhok et que la conjoncture sécuritaire était réellement défavorable avec la recrudescence des attaques aux portes de Kidal, notamment à Nefis. Et donc pour eux, leur vie est en jeu. De manière politique, on peut dire que les Tchadiens ont voulu jouer à la neutralité en tant que force impartiale, mais de manière juridique, on peut dire que cette argumentation ne tient pas du tout, parce que la résolution 2690 de l'ONU, elle est catégorique là-dessus. Elle dit que les camps doivent être de facto remis à l'armée malienne. Et politiquement, c'est incorrect quand on essaie de voir, parce que l'AMUNISMA est quand même une émanation de l'ONU dans le Sahel, et plus précisément au Mali ici. Donc il est quand même séant qu'elle joue un peu franc jeu en fonction du sable. C'est ce que les observateurs politiques disent.
Vous avez dit, l'ONU évoque notamment des questions sécuritaires, la sécurité de son personnel pour justifier son retrait accéléré. Notre troisième invité vient de nous rejoindre. Bonsoir, mais Madame Bagayoko.
Bonsoir.
Niagale Bagayoko qui nous rejoint de Paris. L'ONU parle de la sécurité de son personnel. Les autorités de Bamako parlent de trahison. Est-ce un aveu d'échec de la part des autorités maliennes en ce qui concerne le contrôle de la région, selon vous?
Pour moi, l'échec est partagé des deux côtés, parce que on s'aperçoit que toutes les implications du retrait de la MINUSMA n'avaient pas été envisagées, notamment la façon dont l'accord de paix et ses dispositions devaient être pris en considération de manière à répondre aux engagements qui avaient été pris par les différentes parties. On se trouve dans une situation où des calculs politiques de la part de chacun des protagonistes semblent prendre le dessus. Il y a bien entendu du côté des autorités maliennes une volonté de reconquérir l'ensemble du territoire, et la MINUSMA, à travers la façon dont elle était déployée, pouvait apparaître comme un obstacle à cette volonté de reconquête. Et du côté des autorités onusiennes, il y avait la volonté de démontrer une capacité à faire un retrait en bon ordre, conformément à ce qui avait été conclu. Donc là, on se retrouve face au retrait, l'un des retraits les plus difficiles des forces onusiennes, après avoir vu un rejet de ce déploiement onusien.
Que restera-t-il des camps de l'ONU et pourquoi le contrôle fait autant débat? On parle notamment du fait que l'ONU soit contrainte de détruire le matériel qu'elle ne peut pas transporter. Qu'est-ce que cela signifie pour vous?
En fait, cela correspond à des règles extrêmement précises qui sont établis par les Nations Unies. Très précisément, cela s'appelle les règles du contingency armed equipment, c'est-à-dire le fait que les matériels onusiens et les équipements appartiennent aux États contributeurs. Ils sont censés, selon les dispositions des textes en vigueur, quel que soit l'environnement ou le pays où ils sont déployés, revenir à ces États contributeurs de troupes. Or, lorsque cela n'est pas possible, le manuel COE, donc Contingency Owned Equipment, prévoit qu'ils soient détruits parce qu'ils ne peuvent pas revenir qu'à d'autres, à ceux à qui ils appartiennent, en l'occurrence les pays contributeurs de troupes.
Donc, si je comprends bien votre raisonnement, ce matériel devrait revenir de droit à l'armée malienne. Paul Oula, un commentaire ?
Non, pas du tout.
Ah,
pas
okay,
du tout à l'armée malienne, aux pays contributeurs de troupes, c'est-à-dire aux différents contingents qui sont déployés, que ce soit le contingent tchadien, le contingent burkinabé, le contingent égyptien. Ce matériel leur appartient. Donc, il ne peut pas revenir aux pays hôtes, en réalité.
Paul Oula, vous êtes toujours avec nous ?
Bonsoir.
Un commentaire suite aux propos de Mme Bagayoko avant d'aller à la prochaine question.
Oui, dans les procédures des Nations Unies, les Nations Unies ne donnent pas des armes à ces casques bleus. Ce sont les pays contributeurs qui viennent avec leur équipement. Alors, si aujourd'hui on dit que les casques bleus doivent quitter le Mali, c'est évident que ces forces onusiennes s'en aillent avec leur matériel nécessaire. Alors maintenant, en ce qui concerne l'opinion politique du Mali, certains sont tentés de dire que bon, la MINUSMA est venue pour aider le Mali afin de rétablir sa souveraineté sur tout le territoire. Alors si cette mission a été un échec, il est quand même un peu concevable que certains matériels doivent être remis à l'armée malienne, notamment quand on essaie de voir dans les entreprises que la MINUSMA occupe, il y a quand même certains matériels qui pouvaient de facto revenir à l'armée malienne.
Nous avons recueilli quelques réactions sur les réseaux sociaux sur ce thème. Et que pensent nos téléspectateurs du retrait accéléré de la MINUSMA ? Quelques réactions et commentaires de nos auditeurs. Archiduc Théodore de N'Djamena nous dit que le retrait de la mission onusienne aura assez de conséquences en termes de sécurité, laissant l'accès aux différents groupes armés avec le vide laissé dont l'armée républicaine à elle seule n'a pas pu combler. Lasgasek du côté de Dakar, Sénégal, nous dit que le retrait de la MINUSMA, tant souhaité par les autorités de Bamako, ne sera pas sans conséquence face au déploiement de convoitises de part et d'autre. Ce départ, selon lui, des troupes de l'ONU aura un impact très négatif au nord du Mali, car cette vaste étendue du territoire malien échappe au contrôle de Bamako. Dernière réaction, celle d'Alphonse Mbouaki de Kinshasa. Avec la fin de la MINUSMA et de l'aide logistique que celle-ci fournit à la force conjointe du G5 Sahel, les autres pays de la sous-région vont devenir plus vulnérables aux groupes terroristes. Il sera laborieux, selon lui, pour Bamako d'assurer la stabilité du pays sans une assistance internationale robuste. Si vous nous rejoignez, vous suivez Washington Forum sur VOA Afrique. On se retrouve juste après la pause.
Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Bienvenue si vous nous rejoignez Washington. Washington Forum sur VOA Afrique. Nous parlons des enjeux du retrait de la MINUSMA dans le nord du Mali avec nos invités de Paris, Niagale Bagayoko, présidente de l'African Security Network. Nous avons depuis Bamako Amadou Alpha Sissoko, analyste, chroniqueur, politique. Et nous avons également un autre invité de Bamako également, Paul Oula, analyste politique. Ce matin, nous avons appris que les soldats tchadiens, les casques bleus tchadiens, ont commencé à partir plus tôt que prévu de Kidal pour protester notamment contre les refus des autorités de Bamako d'accorder des autorisations de vol. La MINUSMA devrait prochainement libérer le camp de Bamako dont les soldats ont commencé par partir beaucoup plus tôt. Selon vous, à quel scénario doit-on s'attendre pour ce départ de la MINUSMA de Kidal? Monsieur Sissoko, qu'on n'a pas beaucoup entendu.
Ce n'est pas souhaitable, d'autant qu'il faut le minimum de coordination pour permettre un retrait réussi. Déjà, par rapport à la résolution des Nations Unies qui avait mis en place la MINUSMA et la posture de départ de la MINUSMA, il y avait eu mal donné. Donc, il faut qu'on évite de répéter les mêmes erreurs lors du retrait de la MINUSMA. Étant entendu que le délai dans lequel le processus de retrait a été négocié paraissait déjà aléatoire, s'il faut ajouter à cela un retrait précipité, ça pose énormément de questions et ça peut conduire à des risques dont tout le monde comprend.
Avec M. Sissoko qui nous disait qu'un retrait précipité pose énormément de questions, mais c'est déjà en cours ce retrait accéléré. Madame Bagayoko, à quel scénario doit-on s'attendre avec Kidal notamment?
Mais on sait très bien hein, que depuis 2012, c'est autour de la région et plus exactement de la ville de Kidal que s'articule le nœud, le cœur du conflit malien. Ce n'est absolument pas une nouvelle question qui émerge. On a presque l'impression aujourd'hui qu'on revient au scénario de 2012 et que l'ensemble des efforts qui ont été déployés par les acteurs internationaux, nationaux également, mais là on parle de la MINUSMA, donc d'un acteur extérieur, ont été absolument vains. Il y a ce différend qui dure en réalité depuis l'indépendance du pays entre les populations du nord du Mali, et parmi elles majoritairement les Touaregs, qui sont en conflit avec les autorités nationales du pays. Donc il y a, on le sait, eu un cycle de crise extrêmement régulier. Chaque décennie a connu une crise entre les groupes armés du nord du Mali et la capitale, et il me semble que l'on s'achemine très dangereusement vers la reprise des hostilités. La question est de savoir si l'élément de l'insurrection djihadiste qui s'est surajouté à cette problématique va compliquer la situation, ou est-ce qu'il y aura des alliances, des compromis avec certains acteurs. Mais pour moi, on se dirige vers une situation qui rappelle tristement celle qui avait cours en 2012-2013.
Des compromis, peut-être des relations qui vont peut-être se tisser dans le cadre de Kidal. Paul Oula, comment vous voyez ce retrait de Kidal qui a d'ores et déjà commencé, je le rappelle?
Bon, quand même, il est impérieux de souligner que Kidal est l'élément l'épicentre de l'insécurité au Mali et au Sahel. Toutes les rébellions ont toujours commencé à Kidal. Et d'ailleurs, depuis 1958, avec l'OCRF, les Touaregs étaient toujours animés par un sentiment de velléité sécessionniste. C'est une évidence qui est là. Alors maintenant, le fait que Akumi, Moudiao, Al-Mouabitou et autres ordres terroristes se sont alliés au MLNA pour chasser l'armée malienne de Kidal, Alors, aujourd'hui, on doit réellement penser que Kidal est l'enjeu majeur. Lutter contre l'insécurité au Mali et ne pas libérer Kidal, c'est comme si on n'a rien fait. Parce que quand on essaie de voir lors de l'opération Serval en 2013, toutes les grandes villes au niveau, dans la partie septentrionale, ont été libérées, excepté Kidal. Et aujourd'hui, c'est Kidal qui constitue ce qu'on appelle le nœud gordien du problème malien. Alors, si certains pensent que la tête du serpent se trouve à Kidal, je suis parfaitement d'accord. Parce que les groupes qui perpètrent les attaques les plus meurtrières, sont les figures de proue sont toujours à Kidal. Notamment, je parle de Al-Gabas Ag-Ntala, je parle de Yad Ag-Ali, l'islamiste, et plus le frère de Al-Gabas Ag-Ntala, qui est Mohamed Ag-Ntala. Donc, aujourd'hui, quand on essaie de voir les grandes figures emblématiques du terrorisme et du sécessionnisme sont à Kidal. Donc, il est réellement important que cette région entre dans le giron national afin qu'on puisse vite engager le processus de développement et de désenclavement de toute la partie septentrionale.
En quelques mots, comment vous voyez l'issue de cette crise avec le retrait de la MINUSMA et les rivalités entre l'armée malienne et les groupes rebelles à dominante Touareg? Monsieur Sissoko, en quelques mots.
Oui, il faut avoir à la fin du retrait de la MINUSMA, dans tous les cas, que le processus politique reprenne cours entre l'État du Mali et les composantes qui ont des revendications politiques et identitaires. Mais cela ne peut se faire qu'en ayant en ligne de mire un certain nombre de principes qui sont intangibles. C'est la souveraineté du pays, c'est l'unicité du Mali. Donc, au-delà, le processus deviendra un processus intra-malien. Et à ce moment-là, le dialogue politique pourra s'installer et s'exprimer mieux sans influence extérieure. Parce que l'accord d'Alger n'en était pas forcément un. Et du côté du gouvernement malien et du côté des mouvements, chacun avait subi des pressions qui avaient amené à dimensionner l'accord sans forcément intégrer les préoccupations exprimées ici et là. Donc la situation de départ, bien que complexe, peut constituer aussi une opportunité pour donner une meilleure chance au débat intramalien, à mon avis.
Le départ peut constituer une opportunité pour donner chance au débat intramalien. C'est l'avis de M. Sissoko. Madame Bagayoko, comment vous voyez l'issue de cette crise?
Moi, je suis assez d'accord pour considérer que l'intervention internationale, qu'elle ait été onusienne, qu'elle ait été algérienne, hein, puisque la garante d'accord de paix et le lieu où a été négocié l'accord de paix était l'Algérie, s'est révélée en échec. Et c'est certainement uniquement par des voies de règlement de cette crise, encore une fois ancienne, que l'on parviendra à une solution. Mais la question qui se pose est de savoir si cette solution sera trouvée par la voie des armes ou par la voie de la négociation. Et malheureusement, tous les éléments aujourd'hui laissent plutôt penser que ce sont les armes qui vont parler.
Je vous remercie pour ces propos, Madame Niagali Bakayoko, présidente de l'African Security Forum. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce débat. Je vous remercie également Monsieur Amadou Alpha Sissoko, chroniqueur et analyste politique de Bamako, également Paul Oula, analyste politique. Merci. Et merci à nos auditeurs pour leur réaction sur ce débat, sur le retrait de la MINUSMA du Mali. C'est la fin de cette émission Washington Forum. Vous pouvez suivre à travers nos télépartenaires sur le continent. C'est tous les jeudis, le rendez-vous à 19h, temps universel sur VOA Afrique et sur voafrique.com, en rediffusion samedi et dimanche. Merci.